Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles ? Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Histoire. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, ça va être encore trois petits textes que j'ai écrits comme ça un jour. Et voilà, ça va être un peu la fin de mes textes à moi, hein, on va dire. Après, on va se repencher sur d'autres auteurs, d'autres aventures. Et puis, au cours de cette émission, eh bien, j'ai eu envie aujourd'hui de vous faire découvrir, pour ceux qui ne le connaissaient pas, ou redécouvrir, pour ceux qui l'ont oublié, un chanteur... ça date maintenant, ça date un peu, hein, c'était... pas quasi ma jeunesse, mais ça date un peu. C'est Jean-Marie Vivier. C'est quelqu'un qui a écrit de très très belles chansons, surtout dans les années 70, quoi. Mais vous allez voir, ça vaut le coup de redécouvrir. Bon, en attendant, on va commencer par donc le premier texte. Ça, c'est un texte que j'avais écrit à la demande de Monsieur Toussaint Louverture. Monsieur Toussaint Louverture, c'est une association qui édite des livres, qui se situe dans la région toulousaine, et il m'avait demandé d'écrire une préface, en quelque sorte, à propos des livres. Donc c'est cette préface que je vais vous délivrer, pas plus tard que tout de suite. Les livres, leur vie, leurs mœurs. Depuis la nuit des temps, l'homme, ce roseau penchant et pensant, éprouve le besoin de faire connaître à ses congénères le fruit de ses pensées. À l'époque où son univers se résumait à son entourage immédiat, la parole, ou ce qui en tenait lieu, était un média largement suffisant. En ces temps, la tribu se réunissait le soir autour du feu, et il y en avait toujours un qui en profitait pour raconter aux autres ses découvertes, ses délires ou tout simplement ce qui lui passait par la tête. Ah, cette façon de faire continua pendant un sacré nombre d'années. Un sacré nombre, ça se compte quand même en millénaires. Hein. Jusqu'au moment où il a bien fallu se rendre compte que cette méthode était surannée. En effet, je ne vous apprendrai rien en vous disant que lorsqu'une histoire se transmet, elle subit un phénomène de déformation dû à un certain nombre de facteurs purement humains tels que le manque de mémoire, la tendance à l'exagération ou l'égocentrisme exacerbé du conteur, et puis j'en passe quoi. Bref, si l'homme, ce roseau pensant, voulait que le fruit de ses pensées ne soit en rien déformé, il lui fallait trouver un autre moyen de transmission. Et c'est ainsi que naquit l'écriture. Alors ne comptez pas sur moi pour vous raconter en large et en travers comment de la parole on passa à la tablette d'argile, de la tablette d'argile au papyrus, du papyrus au parchemin, du parchemin au papier. D'abord parce que c'est une bien trop longue histoire, et puis ensuite parce que vous pouvez très 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 bien faire l'effort vous-même de vous documenter sur ce sujet si toutefois ça vous intéresse. Et puis enfin, simplement parce que j'en sais strictement rien, moi. Toujours est-il qu'un beau jour de 1434, Johannes Genflesh, avec, ouais, Johannes Genflesh, je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde l'appelle Gutenberg. En tout cas, ce Johannes Genflesh, il inventa la presse à imprimer et en 1441, une encre qui permettait l'impression des deux faces du papier. Alors, il comprit bien vite les inconvénients des caractères mobiles en bois, hein, tant pour la pratique que pour la qualité de l'imprimerie, et il se consacra à la fabrication de caractères métalliques. Et de 1450 à 1455, il mit au point la technique typographique. Et alors que son premier livre était en cours d'impression, la fameuse Bible à 36 lignes, il perdit un procès contre son commanditaire. Donc il fut contraint de tout abandonner. Et en 1465, il fut anobli par l'archevêque de Mayence, qui lui redonna les moyens de reprendre ses travaux. Hein ? Ah, tout ça, c'est ce qu'en dit le dictionnaire. Mais en réalité, on se fout royalement des problèmes de Gutenberg. Hein, hein. De toute cette sombre histoire, il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est que le premier livre était né. Ah, et du coup, l'homme, ce roseau pensant, pouvait avoir l'assurance que ses cogitations traverseraient les siècles sans être déformées par un conteur indélicat ou un copiste étourdi ou un salopard quelconque qui ferait exprès de déformer sa pensée. Ah. À l'instar de toutes les espèces, dès lors, le livre se multiplia. Ah, je ne vous apprendrai rien en vous disant que chez un lecteur, le nombre de livres croît d'année en année quand ce n'est pas de jour en jour. Bien vite, la petite étagère des débuts devient trop exiguë et le lecteur doit vite fait se rendre chez Ikea ou un tout autre fournisseur d'ailleurs pour se procurer, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes ou bien crédit revolving, une bibliothèque de taille raisonnable. Au fur et à mesure que le lecteur vieillit, le nombre de livres augmente et je connais certains lecteurs dont l'appartement est littéralement envahi. Hein ? Comment peut-on en arriver là, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce que le livre est une drogue dure et que le lecteur tombé sous sa dépendance ne peut plus s'en passer. Oh, je ne vous parlerai pas des auteurs qui, soi-disant, sont les responsables de cette diffusion intempestive. Car en réalité, l'auteur est lui-même intoxiqué par le livre. L'auteur rêve livre, pense livre, vit livre, pantin entre les pantins, il passe ses jours à suer sang et eau pour donner naissance à cet envahisseur, le livre. Le livre est toute sa vie, et c'est avec fierté qu'il assiste à la naissance du fruit de sa masturbation intellectuelle sans se rendre compte des conséquences de son acte. Car il faut bien en être conscient, le livre et sa multiplication intempestive nous mènent au chaos. Avez-vous pensé un seul instant au nombre d'arbres qu'il a fallu abattre pour imprimer les œuvres complètes de Victor Hugo, de Zola, de Dostoïevski, de Frédéric Dard, de Georges Simenon et de moi-même ? Hein ? Ceci pour ne citer que les auteurs les plus importants. Combien d'hectares de forêt ont été transformés en bibliothèques pour satisfaire aux besoins de confort de ces monstres ? Là, je parle des livres, hein, pas des auteurs. Croyez-vous un seul instant que c'est sans conséquence ? La forêt, ce poumon de notre planète est en train de disparaître et vous continuez à lire ? Le livre va nous détruire comme Rome l'a fait de Carthage, et vous lisez. Déjà, le livre vous domine sans que vous vous en rendiez compte. Je m'explique. Que faites-vous quand vous ne connaissez pas l'orthographe d'un mot, sa définition ou le nom de ce roi qui régna de 1461 à 1483, hein ? Eh ben vous vous précipitez sur un dictionnaire et vous croyez aveuglément ce qu'il vous raconte. Et qu'est-ce qu'un dictionnaire sinon un livre, hein ? Ah oui, oui, les livres nous dirigent et nous, bêtement, nous nous laissons faire sans rien dire, si ce n'est des trucs aussi révélateurs que « Eh ben si, c'est vrai, je l'ai lu !» En fait, nous nous laissons mener par le bout du nez par bien des choses et il avait raison l'autre, dont je me souviens plus le nom, qui posait cette question essentielle et primordiale. « Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?»« Car quoi, hein ? Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi les petites cuillères se mettent toujours sous le jet du robinet quand vous faites votre vaisselle et vous éclaboussent de telle façon que vous vous retrouvez trempé de la tête aux pieds ? Ne vous posez-vous pas la moindre question quand votre voiture tombe en panne juste le jour où vous en avez besoin ? Et je ne vous reparlerai pas des tartines de confiture qui s'arrangent toujours pour tomber du mauvais côté sur le pantalon tout neuf que vous venez d'acheter en solde dans ce mois de janvier en croyant faire l'affaire du siècle. Oh non, ça nous entraînerait trop loin. Non, je terminerai sur un seul mot. Méfiez-vous des livres, ils ne disent pas que des vérités.
Il est 8 heures en ce dimanche, les drames découvrent tes hanches, ton rêve n'est pas achevé. La grande maison dort encore, le chien lève un œil sous le store, je te prépare du café. Le jardin goûte de rosée, c'est le début de la journée, il est 8 heures et c'est l'été. L'odeur des myrtilles te réveille, tes lèvres deviennent vermeilles sous les pépins des fruits sucrés. À l'étage, une porte claque, le vieux plancher résonne et craque, on entend les tuyaux vibrer. La chambre à ton regard s'allume, dans la tasse le café fume, je m'agenouille à tes côtés. Il est 11 heures en ce dimanche, le soleil va de branche en branche, les enfants jouent près de l'étang. Le chien se roule et puis s'étire, je te regarde et te désire, tu es belle tout simplement. Les fleurs du jardin sont ouvertes, tout près de moi tu sembles offerte, il est 11 heures, il fait beau temps. Il est 15 heures en ce dimanche, tes lèvres s'ouvrent et tu te penches pour m'offrir un bouquet d'amour. Les enfants s'inventent des rôles dans le jardin bordé de saules et le chien jappe tout autour. Ces instants faits de 1000 choses font que la vie se peint de rose. Il est 15 heures, il fait si lourd. Il est 20 heures en ce dimanche, nous quittons notre maison blanche, dans le portail la clé gémit. À l'arrière de la voiture, les enfants sous la couverture, auprès du chien sont endormis. Le ciel rougeoie derrière les branches, il est 20 heures et ce dimanche a déjà le goût du lundi.
Ah, l'avenir, hein, l'avenir, c'est un sujet qui nous préoccupe tous. Figurez-vous que je vous ai déjà dit un texte il y a quelque temps qui s'appelait le tri total et qui permettait, en triant toutes nos ordures, mais alors toutes les catégories d'ordures, de résoudre une grande partie de notre problème, la crise et j'en passe. Eh bien, figurez-vous que j'ai été plus loin dans mes réflexions et je vais donc vous communiquer un texte qui est le fruit de mes pensées et dont le titre est « L'avenir est dans la merde ». Ah oui, quand à la fin du tri total je vous disais « L'avenir appartient aux ordures », eh bien j'étais bien en deçà de la réalité. Non, la réalité, c'est que l'avenir est dans la merde. Non, mais attention, hein, je dis pas que nous allons vers la merde. Non, ce n'est ni un jugement, ni la marque d'un pessimisme exacerbé. Non, c'est de l'objectivité pure et simple. L'avenir est dans la merde. Voilà, une première information m'avait bien mis la puce à l'oreille, hein. Mais sur le coup, j'y avais pas apporté plus d'attention que ça. Il s'agissait d'une entreprise sri-lankaise qui est spécialisée dans le recyclage de la crotte d'éléphant pour en faire du papier. Hein ? Ah, l'idée est plaisante et apparemment rentable, puisque 10 kilos de crotte d'éléphant produisent 600 à 660 feuilles de format A4. En gros, avec 10 kilos de crottes d'éléphant, vous avez de quoi faire marcher votre imprimante pendant 3 bons mois si vous êtes un particulier qui n'imprime pas trop, quoi. Et en plus, si vous écrivez, enfin je veux dire, si vous avez la prétention d'écrire et que vous faites imprimer votre livre sur un tel papier, eh ben vous serez ni surpris ni vexé si les critiques disent que votre bouquin c'est de la merde. Ah, c'est quand même un avantage. Bref, enfin ça, cette information, j'y pensais plus. Quand une deuxième information me fit lever le sourcil gauche. Figurez-vous que les Thaïlandais, sans doute lassés d'être obligés de se balader avec une pelle et une brouette pour ramasser les déjections de leurs petits animaux de compagnie, hein, et ça, les propriétaires de chiens de chez nous feraient bien de s'en inspirer. En tout cas, ces Thaïlandais ont eu l'idée géniale de leur apprendre les toilettes. Ouais. Des cornacs ont installé des toilettes géantes dans un camp d'éléphants de la ville de Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, pour que les touristes ne soient plus incommodés, par les déjections des pachydermes. Alors, cet éléphant ont été entraînés à s'asseoir, hein, tel l'homme, sur les sièges des toilettes ultra résistantes en béton, et ils ont appris à actionner la chasse d'eau. Elle-même, cette chasse d'eau surdimensionnée, vous imaginez. Alors, ils font ça par un doux mouvement de la trompe. Ah, là aussi, j'en connais qui devraient s'inspirer, même s'ils n'ont pas de trompe. En tout cas, les éléphants ont appris l'usage des toilettes en 2-3 jours seulement. Et d'ailleurs, le journal Le Nation s'étonne et déclare « Ils ne cesseront jamais de nous étonner, ces éléphants ». Alors, moi, je me suis dit que si les Thaïlandais et les Sri Lankais s'associaient, eh ben l'industrie française du papier a du souci à se faire, mes enfants. Ah, ben oui, vous imaginez des milliers d'éléphants déféquant dans des toilettes reliées à une usine de fabrication de papier. Hein ? Quand on sait ce que ça peut chier un éléphant, ça en représente du papier quand même. Hein ? Alors, des milliers d'éléphants, ah non, mais j'ose même pas imaginer, moi. Et tout ça ne serait rien si une troisième information n'avait croisé mon regard un jour que je traînais sur Internet. Figurez-vous que 3 millions de visiteurs par jour, gratuité des visites, de lourdes factures d'électricité et 14 toilettes. Cherchez l'intrus un peu. Eh bien, le directeur du Science Museum de Londres veut faire des économies. La découverte aux États-Unis d'un moyen d'exploiter les bactéries des excréments pour en faire une ressource énergétique est venue à point nommé pour résoudre les soucis de ce brave monsieur. Il a donc annoncé vouloir installer des toilettes productrices d'énergie. Comme le musée est gratuit, ce serait un bon moyen pour les visiteurs de faire une contribution. Hein ? Les estimations faites sur la base de 3 millions de visiteurs par jour feraient état de la possible production de 1530 kWh, soit l'équivalent de 15 000 ampoules électriques chaque année. Hein ? Ah, comment on est arrivé à ce chiffre ? Ah, ça, le directeur du muséum ne le précise pas. Mais le musée a détaillé le projet qui consiste à brûler la matière recueillie comme combustible, alimentant une mini-centrale électrique, ou bien à la transformer en pile à combustible microbienne. Mais le coût de cette installation est inconnu. Mais quoi qu'il en soit, voilà la fin de tous nos soucis dus à la prochaine extinction de nos ressources pétrolières. Déjà, avec le programme que je développais dans le tri total, nous avions en grande partie résolu nos problèmes. Mais là, c'est la fin de nos ennuis. Enfin, franchement, si 3 millions de caca de visiteurs donnent 1530 kWh, 60 millions de caca français vont nous donner 30 600 kWh. Non, mais imaginez. Voilà le moyen de résoudre le problème de l'énergie et celui de l'occupation des chômeurs. Il suffirait d'obliger chaque chômeur à s'asseoir sur un siège de toilette et hop, on récupère 1530 kWh. Hein ? Et comme c'est pas beaucoup, je propose d'améliorer le système en obligeant les chômeurs, qui n'ont rien à faire de leur journée, à être assis 8 heures par jour sur lesdites toilettes. Ils seront reliés à un système de gavage comparable à celui des oies, et ce qu'on en fournerait dans les bouches ressortirait de l'eau de boue sous forme d'énergie. Ah ben moi, je suis bien sûr qu'un chômeur bien gavé pourrait nous produire sans problème 5 à 6 caca par jour. Et ainsi, notre production d'énergie croîtrait en conséquence. Et ainsi, le chômeur ne serait plus improductif. La nourriture si généreusement délivrée à titre gratuit par les Restos du Cœur serait rentabilisée et nos industriels pourraient profiter d'une énergie à moindre coût. Il n'y aurait plus qu'à changer un petit peu les paroles de notre hymne national. Allons enfants de la patrie, votre tour de chiottes est arrivé. Et nous pourrions sourire à un avenir radieux. Non, je vous le dis et je le répète, l'avenir est dans la merde.
Vieillir, c'est garder sa jeunesse comme un beau souvenir. C'est s'habituer à vivre un peu au ralenti, réapprendre son corps pour pouvoir s'interdire ce que la veille encore on se savait permis. Se dire à chaque fois, lorsque l'aube se lève, que quoi que l'on y fasse, on est plus vieux d'un jour, à chaque cheveu gris, se séparer d'un rêve, et lui dire tout bas, un adieu sans retour. Vieillir, c'est se résigner à rester sur le rivage, espérer pour ses fils un avenir heureux, c'est vivre dans son coin, sans devenir sauvage, se laisser ignorer, tout en restant près d'eux, mais c'est pouvoir enfin apprivoiser l'amour, en faire une symphonie aux accords de sagesse. C'est aimer une femme, pouvoir lui faire la cour pour d'autres raisons que la plastique de ses fesses. Vieillir, ce n'est plus faire l'amour, Mais c'est faire la tendresse, ce n'est plus dire encore, c'est murmurer toujours, c'est sentir dans sa main une main qu'on caresse, et trembler à l'idée qu'elle vous quittera un jour. Vivre dans un jardin où l'on peut s'attendrir, se prendre par le cœur et lui dire je t'aime. Avouer qu'on a trompé, mais osera-t-on lui dire quand on sait maintenant qu'on s'est trompé soi-même? Vieillir, c'est s'inquiéter soudain du salut de son âme. Rentrer dans une église sans bien savoir pourquoi, de tous les saints patrons devenir polygame et avoir des frissons en regardant la croix, c'est ignorer la fin d'un sketch qu'on a écrit, vouloir rejouer encore devant ses spectateurs en cherchant une réplique ou bien un mot d'esprit, tout en sachant très bien qu'on n'en est pas l'auteur. Vieillir, c'est s'en aller un jour sans jamais faire de drame, en une heure un endroit qu'on ne choisira pas, sentir un soir quelqu'un qui souffle votre flamme disparaître doucement, parce que c'est comme ça. Vieillir, vieillir.
Vieillir. Ouais, c'est. Mais il n'y a pas que ça comme problème dans la vie, figurez-vous. Tiens, par exemple, un problème dont on ne parle jamais, par exemple. On ne parle absolument jamais de la sexualité des infirmes. Ah, c'est un fait. Ne dites pas le contraire. Hein. Seules certaines publications hautement spécialisées et à tirage confidentiel ont peut-être, ça et là, traité le sujet, mais rien n'est moins sûr. Enfin, quoi qu'elle en soit, il m'a paru intéressant de consacrer une rubrique à ce sujet. En effet, avez-vous déjà une fois, une seule fois, imaginez ce que serait votre sexualité si par malheur ou par un coup du sort vous étiez atteint d'un handicap. Non, j'en suis sûr. Eh ben, c'est la raison qui m'a poussé à vous faire part de mes réflexions. Et donc, voici un texte dont le titre est Les pratiques amoureuses chez les infirmes. Alors évidemment, c'est de l'humour, hein. Ne prenez pas tout au premier degré, s'il vous plaît. Donc on va commencer par les aveugles. Ah, l'aveugle ne voit pas. Hein, ce fait acquis, nous pouvons en déduire que l'aveugle ne peut pas, par exemple, être voyeuriste. Non, l'aveugle ne peut pas se rincer l'œil. Cela lui est interdit. De même, le choix de son ou sa partenaire ne relève pas en premier lieu de l'esthétisme. Non, l'aveugle peut très difficilement, au premier abord, juger de la beauté de son ou de sa partenaire. Bien sûr, il se sera rendu compte si celui ou celle-ci est obèse. Hein. Quelques coups de canne savamment distribués le renseignent à ce sujet. N'étant pas privé, par contre, de son sens olfactif, il se rendra compte dès la première minute si il ou elle a mangé de l'ail juste avant cette soirée dansante. Il ne verra pas cette affreuse écharpe jaune, mais très vite, il saura qu'elle est en soie de premier choix et valant dans les 3 000 $ le mètre carré. Et cela grâce à son sens du toucher. Ah, oui. Parce que si vous ne le saviez pas, nous vous l'apprenons, l'aveugle est un grand toucheur et un grand connaisseur de tissus. L'aveugle a développé son sens du toucher très tôt, enfin dans le cas d'un aveugle de naissance. Dans le cas contraire, il a intérêt à apprendre très vite d'ailleurs à le développer. D'abord pour pouvoir lire, Et ensuite, pour sans avoir l'air de rien, si on peut dire, l'air de rien, voir à qui il fait du charme dans l'espoir d'exercer ses talents sur la peau de sa conquête. Ah non, mais imaginez un peu ce que peut faire avec ses doigts un type capable de différencier un A d'un B écrit en braille. Non mais, l'aveugle subit à cet effet un entraînement spécial dans des établissements spécialisés, qui sont d'ailleurs plus performants, paraît-il, que les non spécialisés. Et l'activité principale de cet entraînement est un jeu que vous connaissez, mais que vous ne pratiquez plus depuis longtemps. Colin Maillard. Eh, souvenez-vous de votre jeune âge et puis des après-midi passés avec votre cousine Lucette. Hein? Avec un peu d'entraînement, un aveugle qui vous passe sa main sur le visage peut vous dire votre sexe, votre âge, la marque de votre lotion après rasage et si vous devez changer de marque de rasoir. Il peut tout aussi bien se rendre compte après ce premier examen que son interlocutrice ressemble à Sophia Loren et programmer un examen plus approfondi histoire de vérifier si la dame possède les mensurations de la susnommée Sophia Loren. Bref, vous l'aurez compris sans plus de détails, l'aveugle a une sexualité et elle est basée sur le toucher. Nous allons maintenant parler un petit peu du sourd. Alors, le sourd, lui, touche aussi. Mais contrairement à l'aveugle, il ne voit pas.
Il n'entend pas, d'ailleurs, voulais-je dire. C'est n'importe quoi, je me laisse influencer.
Bon, étant donné qu'un sens se développe en compensation d'un autre sens, on peut dire que le sourd n'a pas, et de loin, évidemment, le toucher de l'aveugle, qui, au dire de certaines dames, est incomparable. Le sourd, son problème, c'est l'oreille. À ça, vous ne verrez jamais un sourd acheter une cassette de chant de salle de corps de garde ou la panoplie du petit détective amateur pour espionner les ébats de ses voisins dans la chambre d'hôtel grâce à un micro hyper puissant qu'elle contient. Non, l'aveugle, le sourd plus exactement, se fout éperdument que sa partenaire entonne le grand air de Aïda quand il lui fait connaître les charmes de la brouette japonaise. Non, ça, il ne sert à rien qu'elle lui susurre à l'oreille des mots orduriers pour arriver à faire enfin dresser ce qu'il doit l'être, non. Ah, s'il voit le sourd, contrairement à l'aveugle, il voit tout de suite à qui il a affaire, mais il n'en est pas tiré pour autant d'affaires. Non, imaginez un peu la scène. Vous habitez chez vos parents ? Non, mais vous pourriez parler un petit peu plus fort, je suis un peu dur d'oreille. Et l'autre se met à brailler, sans être aveugle pour autant, tellement fort qu'elle couvre la musique infâme que produit ce soi-disant orchestre de cette fichue soirée dansante où elle regrette d'être venue. C'est chouette comme méthode de drague, c'est discret, hein. Il faut pas être timide, hein. Ah non. Néanmoins, il reste toujours au sourd la possibilité de forniquer avec une muette, qui, contrairement à ce qu'on pense, poussera quand même des cris au moment où, ayant mal compris, il lui introduira une brouette made in China en tôle galvanisée de premier choix, garantie 3 mois par Manu France. Enfin, là, au moins, seuls les voisins seront gênés. Bon, je vais vous parler du manchot, maintenant. Je ne m'attarderai pas sur le manchot unidextre. Hein, qui n'est pas plus handicapé que vous quand vous transportez un sac de provisions dans la main gauche. Enfin, ou droite, selon les cas. Non, seul m'intéresse le manchot intégral. Celui à qui on a dit à son réveil, après le terrible accident qui lui est arrivé, « Ainsi font les petites marionnettes, ainsi font, trois petits tours et sont partis. » Enfin, ça, c'est juste histoire de désangoisser la situation, quoi. Mais très vite, le manchot se rend compte qu'il ne mettra plus jamais les doigts dans son nez
et que c'est pas demain qu'il pourra subrepticement faire la fête à Popol. Bref, le manchot est très handicapé côté travail manuel. Néanmoins, il offre l'avantage de pouvoir très peu se défendre quand une dame, parvenant à lui lier les jambes, entreprend de lui faire subir « Donne-moi ton épée, c'est moi qu'elle fourreau ». Ah ouais, c'est également un individu bien vu dans le métro par celles qui en ont marre de se faire ploter aux heures de pointe. Et on dit que certains manchots ont développé une grande habileté de la bouche. Ça, c'est aussi une dame qui me l'a dit. Alors, nous allons passer au cul-de-jatte. Il n'y a pas de raison. L'avantage du cul-de-jatte, c'est qu'il est toujours disponible là où on l'a posé. C'est un avantage incontestable pour la dame au fourreau de tout à l'heure. De plus, selon l'usage que vous voulez en faire, vous le posez à la hauteur et sur la surface qui vous convient. Ah, le modèle le plus avantageux est également muet. Mais enfin bon, un baillon peut très bien faire l'affaire. L'inconvénient, mesdames, c'est que vous devez vous taper tout le boulot. Ah bah oui, là ça... Mais il y a un remède à l'inconvénient. C'est vous fabriquez une sorte de petite balancelle où vous fixez votre cul-de-jatte et puis il peut comme ça, en s'aidant de ses bras, s'il n'est pas manchot, effectuer un mouvement d'avant en arrière du meilleur effet. Ouais, bah évidemment, hein, cette liste n'est pas exhaustive et hors le cas du tétraplégique, tous les cas mériteraient mon attention, mais j'ai pas le temps pour aujourd'hui. Je ferai ça un autre jour.
Bouffons de société, comme dit le pillet. Ils sont les mal-aimés d'un monde déchiré, les saltimbanques. On les dit comédiens, poètes ou musiciens, c'est-à-dire moins que rien, on traite mieux les chiens que les saltimbanques. Ils vous viennent d'ailleurs, les yeux pleins de chaleur, de l'amour plein le cœur, et pourtant ils font peur, les saltimbanques. Puis aussitôt parti, se perdre dans la nuit, c'est tout de suite l'oubli, on n'est jamais l'ami des saltimbanques. Temps, et se casse les dents à trop aimer les gens qui n'y voient que du vent, les saltimbanques. Sur la pointe des pieds, ils viennent se faire aimer, mais sont excommuniés de toute société, les saltimbanques. Quand on daigne les voir, il est déjà trop tard. Souvenez-vous qu'un soir, un chien suivait Mozart, le saltimbanque. Ils hurlent avec les loups, à s'en tordre le cou, mais sont toujours debout, quand la mort vient à bout, des saltimbanques. Ne vivent que la nuit, changent souvent de lit, voilà ce que l'on dit, des saltimbanques. Et pourtant le cœur lourd, d'être à jardin et court, il arrive qu'un jour, ils aiment enfin d'amour, des saltimbanques. Bouffons de société, comme dit le quillet, ils sont les mal-aimés d'un monde déchiré, de saltimbanques. On les dit comédiens, poètes ou musiciens, c'est-à-dire moins que rien, on traite mieux les chiens, les saltimbanques.
Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié les chansons de Jean-Marie Vivier. Je vous en repasserai de temps en temps parce que c'est quelqu'un qu'on a un peu oublié, mais qui a fait de très très belles chansons. Eh bien voilà, je vais dire un grand merci à Nico qui toutouillait ses petits boutons derrière la vitre. Et à vous, je vous dis comme d'habitude, à la prochaine fois. Même endroit, même heure.